Radio Okapi.
Les informations, eh bien, c'est tout de suite avec Belinda Boussouma.
La mission interagence de l'ONU en visite à Chicapa dans le Kasaï a procédé hier à la remise des bâtiments entièrement réhabilités et construits. C'est dans le cadre du projet PBF, Fonds de consolidation de la paix. Le représentant spécial adjoint Bruno Lemarquis, qui conduit la mission, a salué les progrès réalisés pour amener la paix et la stabilisation dans le Kasaï. Plus de 350 villages jadis sous contrôle des groupes armés ont été récupérés par l'armée pendant le régime exceptionnel de l'état de siège en Ituri. Ceci ressort du rapport du gouvernement provincial militaire à l'occasion du deuxième anniversaire de l'instauration de l'état de siège. Et puis, les équipes d'urgence des Médecins sans frontières dans le sud Kivu ont pris en charge plus de 1000 patients dans les hôpitaux de Minova et Numbi. C'est dans le cadre d'une réponse urgence avec l'arrivée des plus de 80 000 déplacés du nord Kivu. Pour en parler, nous recevons Ulrich Crépin, adjoint au chef de mission MSF sud Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de la province du Kasaï. La mission interagence des Nations Unies a procédé mercredi à Chicapa en présence des représentants des bailleurs de fonds à la remise des bâtiments entièrement réhabilités et construits dans le cadre du projet PBF. Il s'agit des bureaux de l'inspection provinciale de la police dans le Kasaï et de plusieurs salles de l'INPP, du matériel roulant, d'informatique et de formation. Avec cette acquisition, l'implantation de l'antenne provinciale de l'inspection générale de la police nationale congolaise devient effective et sa visibilité est renforcée, a dit l'inspecteur provincial de la police au Kasaï. Pour sa part, Bruno Lemarquis, coordonnateur résident en RDC, a salué les progrès réalisés dans la province du Kasaï pour amener la paix et la stabilisation. Plus de détails avec notre envoyé spécial Jean-Désiré Kanyama.
Sentiment de satisfaction et les remerciements aux partenaires, notamment les PNUD pour cet accompagnement, a dit le chef de l'antenne provinciale des inspections générales de la police, Rémi Vongo.
À ce jour, l'implantation de l'antenne provinciale et l'inspection générale de la police nationale congolaise devient effective et sa visibilité renforcée.
Pour le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, plusieurs projets stratégiques sont exécutés au Kasaï. Gaston Koleti Mwanga.
Particulièrement le projet renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique mise en œuvre par les consortiums OIM, ONIFAM et PNUD.
Le coordonnateur humanitaire en RDC reconnaît les progrès réalisés pour ramener la paix et la stabilisation. À Bruno Lemarquis.
Il sied de rappeler que plusieurs initiatives de réconciliation ont été initiées par les autorités, notamment la conférence de paix tenue en septembre 2017 dans la région, définissant les premiers jalons en faveur de la réconciliation entre les communautés avec l'appui notamment des agents du système des Nations Unies.
Quid de l'utilisation de ces ouvrages et autres matériels?
Je vous rassure de l'utilisation judicieuse de ces matériels et équipements en bon père de famille.
La réhabilitation entière de tous ces bureaux ainsi que leur équipement offre un cadre digne pour le bon fonctionnement des services et de la police nationale et de l'INPP. Chicapa, Jean-Désiré Kanyama, Radio Okapi.
La MONUSCO rassure de sa disponibilité d'apporter son appui aux autorités congolaises sur la tragédie de Calais au sud Kivu. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC s'est rendue personnellement mercredi à Bouchouchou pour compatir avec les populations victimes de cette catastrophe naturelle. Madame Bintou Keïta était accompagnée d'une forte délégation de la communauté humanitaire en RDC afin d'étudier la faisabilité de l'acheminement de l'aide aux sinistrés. La chef de la MONUSCO, dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
C'est une véritable tragédie pour ceux qui ont perdu la vie, que ce soit pour ceux qui ont survécu et que ce soit aussi pour tout le travail de reconstruction qui va être nécessaire d'être fait. Et pour nous, c'était important en tant que famille des Nations Unies pour partager la douleur avec tout le monde. Et la MONUSCO est déjà engagée en soutien aux autorités et vont continuer à l'être. Et notamment, il y a une demande très précise par les autorités et aussi par la communauté pour réparer un pont qui va permettre de faciliter le passage des personnes, mais aussi le transfert de tout ce qui peut être l'assistance humanitaire. Ce dont vous parlez, c'est la question de l'excavation. Il y a des moyens qui existent, mais les moyens, ils sont à Baraka. et donc il faut transporter tout ça pour arriver ici. Donc c'est pas une question d'absence de volonté, c'est une question où il faut du temps pour que tout le soutien qui est nécessaire puisse être présent. Alors l'ouverture de la route, ça va demander des efforts gigantesques et donc tout le monde va devoir se donner la main pour que cette route puisse être ouverte.
Je vous l'ai dit dans les titres, plus de 350 villages qui étaient sous contrôle des groupes armés ont été récupérés par les FARDC pendant le régime exceptionnel de l'état de siège en Ituri. Ceci est contenu dans le rapport du gouvernement provincial militaire à l'occasion de son deuxième anniversaire. Selon la même source, ces opérations ont permis de neutraliser 300 rebelles des ADF et 40 autres arrêtés. Outre l'approche militaire, les dialogues intercommunautaires initiés par le gouvernement ont abouti à l'adhésion des différents groupes armés locaux au processus de paix pour la stabilité de la province. Plus de détails avec Isaac Remoyope.
C'est depuis le 6 mai 2021 que l'état de siège a été instauré par les chefs de l'État à l'est de la RDC avec l'objectif principal de mettre fin à l'insécurité. Selon le gouvernement provincial, le bilan est positif sur les plans opérationnels. À Bounia, chef-lieu de la province, 712 patrouilles ont été menées par les FARDC qui ont permis d'écarter toutes les menaces qui pesaient sur la ville de Bounia. Plus de 500 bandits ont été arrêtés et 100 armes récupérées. Selon ces rapports, je cite, la ville de Bounia respire un air de paix et de tranquillité. À l'intérieur de la province, plus de 350 villages ont été récupérés par l'armée dans les territoires de Djougou, Mahagi, Mambasa et Irumu. Les bilans est de 300 rebelles ADF neutralisés, 80 se sont rendus et 40 autres arrêtés. Pour ce qui concerne les groupes armés locaux, tous ont signé des actes unilatéraux de cessation d'hostilité et adhéré au processus de paix grâce aux activités de sensibilisation et au dialogue intercommunautaire. Une centaine de miliciens de la CODECO et des FPIC ont déjà déposé les armes et sont cantonnés au site de Diango à 12 kilomètres de Bounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le nouveau coordonnateur du Fonds social de la RDC, nouvellement créé par le président de la République, Philippe Nguala Malemba, a pris ses fonctions ce jeudi 18 mai au cours d'une cérémonie au siège de ce fonds et il place son mandat sous le signe de répondre aux attentes les plus pressantes à la fois du chef de l'État et de la population congolaise. C'est comme le dit ici, il le dit au micro de Jean-Marc Matouaki.
C'est sous les signes de répondre aux attentes. Les attentes les plus pressantes du chef de l'État, qui sont également les attentes de la population congolaise. Vous savez que ce Fonds social de la République démocratique du Congo est un instrument qui doit contribuer à booster le social de la population et le vécu quotidien. Et donc la mission qui nous est donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République est une mission lourde. Face à de telles situations, j'ai souvent un sentiment mitigé. C'est le sentiment de la joie dû à la confiance placée à notre modeste personne par le chef de l'État. Et c'est aussi le sentiment de la mesure, de la lourdeur de la tâche qui est âpre, qui est dure de contribuer en tant que modeste personne, à cette mission qui est celle de pouvoir aider la vision du président de la République et à la rendre effective et réelle sur le terrain pour le bien-être quotidien de la population. Et donc la remise et reprise vient de se passer. Nous avons commencé le travail aujourd'hui et nous allons le commencer avec la plus grande vitesse qu'il faut pour être à la hauteur de ses attentes.
Sachez que Philippe Nguala Malemba exerçait auparavant les fonctions de conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Pour Madame Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national de promotion et de service social, la nomination de Philippe Nguala va apporter un souffle nouveau dans le combat pour la protection sociale au regard de son expérience et son implication pour cette cause. Rendons-nous dans la province du Maniema. Le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière CNPR Maniema s'est dit indigné du comportement de son partenaire ASECO, Association des chauffeurs du Congo, vis-à-vis de ses fonctions. Ce dernier dit s'étonner en dépit de toutes les démarches auprès des autorités. Aucune solution n'est trouvée et l'ASECO va plus loin en créant des parkings en plein centre-ville sans l'aval de ce service de l'État. De son côté, l'ASECO s'est dit également découragé du comportement de la CNPR qui récolte de l'argent au membres de la SECO sans trace valable. Explication Florence Kiza.
La CNPR est un service public de l'État qui a pour mission de proposer au gouvernement une politique concertée sur la prévention des accidents routiers. Mais au Maniema, elle s'est dit être étouffée par la SECO. Kawaya Malekangwe, le directeur.
En tant que service public de l'État, nous avons des partenaires. Parmi les partenaires, il y a ASECO. Et cette association, au niveau du Maniema, nous fait les barrières ne nous permet pas vraiment de bien travailler, du fait qu'il a ses éléments disséminés à l'étendue de la province du Maniema. Il donne des ordres allant dans le sens de ne pas coopérer avec mon service. Vous remarquerez, au niveau du marché là-bas, la SECO s'est donné les droits d'ériger un parking dans la rue sans qualité ni titre.
La SECO justifie sa position par le mauvais comportement de la Sainte-Père. Massoudi Manara, porte-parole de ASECO.
Si ASECO refuse de travailler avec Sainte-Père, c'est vice son comportement. Il est chargé de la prévention routière, mais lui se donne beaucoup dans les taxes des motos, des véhicules, de parking. Les messieurs de Sainte-Père qui étaient venus auparavant, on avait confié l'argent. Les messieurs partis, on ne connaît même pas la destination. Alors, à cause de ça, nous demandons une table ronde pour connaître d'abord l'argent là, il l'amène où.
C'est en vain que nous avons tenté de joindre le maire pour ce dossier. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis, dans le cadre de notre série de reportages consacrée à la Semaine mondiale de la sécurité routière, suite et fin, dans la plupart des villes et autres grands centres du pays où les routes sont plus ou moins asphaltées, la sécurité routière n'est pas totalement assurée. C'est le cas à Kinshasa où le phénomène Wewa est venu aggraver la situation. Pourtant, il existe une institution du nom de Commission nationale de prévention routière. La CNPR arrive-t-elle à prévenir le danger pour mettre la population à l'abri? Élément de réponse avec Jacques Yves Molima, à Outa.
D'après le directeur de la communication des médias à la CNPR, Hubert Kito Kasongo Nyembo, sa structure se bat pour prévenir les dangers avec la signalisation routière, mais...
Mais il se pose un problème, c'est le problème du respect du code de la route. Ce code de la route n'est pas toujours respecté par les usagers de la route. C'est pour cela qu'il y a des accidents de circulation routière.
Et pour ce faire, la CNPR procède souvent par la sensibilisation. Et ce n'est pas tout.
Il n'y a pas seulement que cette sensibilisation. Il y a le recyclage des conducteurs que nous organisons. Ici même à la CNPR, et nous les recyclons régulièrement.
Cependant, vu le nombre de conducteurs dans la ville de Kinshasa, difficile de croire que tout passe par ce recyclage de la CNPR, d'où il faut d'autres méthodes, pense Deogracias Ilunga Chibangu, directeur à la communication de Saint-Père.
À cette campagne, il faudra y ajouter l'aspect contrainte, y ajouter l'aspect répressif. C'est ce qui manque juste là pour maintenir la calme sur nos routes par rapport au respect du code de la route.
C'est ici que devrait sévir la police des circulations routières. Et celle-ci est ce qu'elle est dans les différentes artères de la ville.
Et puis cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir, la musique congolaise a perdu l'un de ses chorégraphes de renom dans la nuit d'hier mercredi à ce jeudi à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Le danseur et chorégraphe Lambert Moke, mieux connu sous le surnom de Lambio Lambio, est mort de suite d'une crise cardiaque selon l'information confirmée par Chaka Congo, président de l'ASBEL Artiste en Danger, ancien du groupe Chem Chem Yetu du père Bernard Van Den Boom, directeur du groupe Vijana. Lambio Lambio, de surcroît encadreur et formateur des danseurs et danseuses, a travaillé avec quelques grandes célébrités de la musique congolaise moderne, dont Luambo Makia Di Franco, Abeti Masikini, Mbili Abel, Koffi Olomide, Papa Wemba, et c'est avec ce dernier ils ont valorisé une nouvelle génération des danseuses surnommées Fioti Fioti et Les Gnognons.
Actualité internationale.
La junte au pouvoir en Guinée a réquisitionné l'armée mercredi face à des nouvelles manifestations de l'opposition et a menacé d'appliquer les lois antiterroristes prévoyant jusqu'à la prison à vie contre les responsables d'une situation de crise. Un correspondant de l'AFP a rapporté la présence de bérets rouges et des véhicules blindés de l'armée dans la banlieue de la capitale Conakry où l'opposition a appelé à 2 journées de manifestations hier et ce jeudi. L'appel à manifester a semblé très peu suivi dans les rues. Il y a une probabilité de 98% qu'au moins une des 5 prochaines années et la période de 5 ans de 2023 à 2027 dans son ensemble soit la plus chaude jamais enregistrée, a alerté mercredi l'Organisation météorologique mondiale. C'est la conséquence des émissions de gaz à effet de serre et du phénomène météorologique dénommé El Niño.
L'invité.
Les équipes d'urgence de Médecins sans frontières dans la province du Sud Kivu ont pris en charge 1063 patients dans les hôpitaux de Minova et Numbi, des patients composés principalement des enfants malades de la rougeole et le choléra, et ce, dans le cadre d'une réponse d'urgence mise en place pour soutenir les autorités sanitaires dans la zone de santé de Minova avec l'arrivée des plus de 80 000 déplacés du Nord Kivu. Pour en parler, nous recevons Ulrich Crépin, adjoint au chef de mission MSF Sud Kivu et chargé des opérations humanitaires. Il répond aux questions de Rachel Kiesse. Ulrich Crépin, bonjour.
Bonjour madame.
MSF intervient dans la zone de santé de Minova sur les déplacés ayant fui les affrontements dans le Nord Kivu. Parlez-nous de cette intervention.
C'est une intervention qui a commencé depuis le mois de mars. Une intervention focalisée sur l'appui aux victimes de ce conflit dans le Nord Kivu, notamment les déplacés, et aussi focalisé sur la flambée des cas de rougeole que nous avons connus dans la zone de santé de Minova.
La réponse d'urgence que vous apportez, vous la qualifiez de complexe. Pourquoi ?
Je qualifie cette réponse de complexe parce que ce n'est pas seulement une composante qu'on est en train de développer. Il faut voir tout le paquet en question de besoins humanitaires pour les personnes déplacées en provenance du Nord Kivu. Et nous avons une épidémie comme la rougeole qui s'est ajoutée. Et bien évidemment, avant cette épidémie de rougeole, on avait aussi des cas de choléra qu'il fallait faire la prise en charge. Tout ça, quand tu le mets ensemble, ça fait une réponse assez complexe qu'il faut chaque jour voir comment développer et être à mesure de répondre aux besoins des victimes qui sont arrivées de Nord Kivu.
Combien des déplacés ont été touchés par l'intervention d'urgence de MSF dans la zone de santé de Minova?
Aujourd'hui, c'est difficile de vous donner des chiffres de combien des déplacés ont été touchés, mais ce qui reste sûr, c'est que nous avons ouvert notre intervention à l'endroit de tous les déplacés qui sont arrivés à Minova, aussi la population autochtone, parce que dans les structures de santé où on intervient, on soigne tout le monde, pas seulement les déplacés. Et on sait qu'avec tous ces chiffres qu'aujourd'hui les autorités avancent, plus de 80 000 déplacés et que vraiment ces chiffres restent volatiles parce que ça change à tout moment. Il y a des allées et des retours entre les deux provinces du Sud et du Nord Kivu.
Alors, MSF fait un constat sur une forte augmentation des cas de rougeole et une assistance très limitée aux déplacés dans la zone de Minova. Alors, que fait MSF concrètement pour pallier à cela?
Pour parler à cela, chaque jour, nous continuons de renforcer notre évaluation pour être à mesure de détecter à temps les besoins humanitaires. Nous assistons à tout ce qu'on appelle les réunions de coordination des humanitaires, que ce soit au niveau provincial, au niveau de la zone de santé. Nous parlons avec les autorités pour que vraiment les efforts puissent être consentis et de répondre à tous ces besoins. Et bien sûr, nous, on reste aujourd'hui très focalisés sur la prise en charge médicale des personnes les plus vulnérables, notamment les cas de rougeole, les enfants de moins de 15 ans, et aussi répondre à ce qu'on appelle la prévention de choléra, qui, je pense, que reste une composante très importante en développant tout le paquet WASH, mise en place des dispositifs sanitaires, les toilettes, les douches sur les sites collectifs, sur les camps des déplacés, mise en place aussi de faciliter l'accès à l'eau potable, les points de chloration. Donc c'est tout ce paquet qu'aujourd'hui on est focalisé là-dessus, en continuant bien sûr à en parler avec les autres acteurs humanitaires.
Aujourd'hui, vous rassemblez la presse. C'est quoi l'objectif de ce point de presse?
L'objectif, c'est de rappeler la situation aujourd'hui dans la zone de santé de Minova. De dire à la communauté humanitaire, aux autorités, que nous avons une population dans cette zone de santé qu'il faut continuer à assister. Là où l'accès est très difficile, notamment dans la partie haut plateau de la zone de santé de Minova, il faut y arriver, il faut continuer à monitorer les besoins humanitaires et à adapter les réponses selon ces besoins.
Aujourd'hui, tous les humanitaires sont présents, toujours dans le territoire de Calais, mais précisément dans les villages de Bouchouchou et de Niamoukoubi, suite à la catastrophe qui a eu lieu dernièrement. MSF intervient comment ?
Pour un début, on était beaucoup plus focalisé sur la prise en charge des blessés, parce qu'il faut sauver les vies dans l'immédiat. Et c'est ce que nous avons fait en organisant des évacuations sur Bukavu, en étant sûr aussi qu'il y avait la disponibilité de médicaments dans les structures de santé touchées pour la prise en charge de ces blessés. Aujourd'hui, la situation a évolué. Nous avons beaucoup plus de victimes. En termes de bilan humain, il y a eu plus de décès. Les autorités sont en train de travailler là-dessus. Et nous, de notre côté, nous continuons un peu la surveillance. Il y a pas mal des humanitaires qui sont arrivés. Les agents